France Culture.
Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Dans ta maternité, tu as gardé la virginité. Lors de la dormition, tu n'as pas abandonné le monde, ô Mère de Dieu. Tu es passée à la vie, toi qui es la Mère de la vie et qui par ton intercession délivre nos âmes de la mort. Chers amis, c'est avec le tropère de la fête de la dormition de la Mère de Dieu, c'est-à-dire de sa mort et de son ascension au ciel, que notre Église célèbre aujourd'hui, ou le 28 août pour ceux des orthodoxes qui suivent l'ancien calendrier, que nous avons commencé cette émission tout naturellement consacré à cette grande solennité. Ce tropère était chanté par la chorale d'enfants de Georges Kakoulidis. Cet hymne contient en quelques vers l'essentiel de l'enseignement de l'Église sur Marie, la Mère de Dieu. Le miracle de sa virginité, le fait qu'en mourant elle n'a pas abandonné le monde, qu'elle s'en est allée vers la vie, la vraie vie, à savoir le Christ, celle qui fut sa mère, et aussi que depuis la place de gloire que son Fils et Dieu lui a réservée au ciel, elle ne cesse de prier pour nous en nous délivrant ainsi de la mort. Personnage qui résume la destinée humaine, la Vierge Marie connut une expérience unique dans l'histoire du monde, celle d'avoir porté dans ses entrailles le Christ, c'est-à-dire Dieu lui-même. Une des images de la virginité de Marie que la littérature patristique nous transmet est celle du buisson ardent. Nous la retrouvons ici dans le Théotokion dogmatique du deuxième tome, c'est-à-dire l'hymne en l'honneur de la Mère de Dieu chanté le samedi soir au cours des vêpres du dimanche. Le texte de cette théotokia est attribué à saint Jean Damascène, moine à Jérusalem mort vers 750, qui compte parmi les plus importants pères de l'Église. Hymnographe célèbre et grand dogmaticien à la fois, Jean Damascène allie l'émotion poétique à la rigueur doctrinale. Voici le texte de ce théotokion. La grâce étant venue, l'ombre de la loi est passée. Et comme le buisson ardent n'a pas été consumé, de même, Vierge, tu as enfanté et tu es demeurée Vierge. Au lieu de la colonne de feu, s'est levé le soleil de justice. Au lieu de Moïse, le Christ, le salut de nos âmes. Écoutons maintenant ce chant interprété dans la grande tradition constantinopolitaine par le grand protopresbyte du patriarcat œcuménique, Georges Tsetsis.
Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αι και εις τους αιώνας των και πάρθες αντιστήλου πυρός δικαιοσύνης ανέτειλεν ηλίος αντιμοϊσέως Χριστός σωτηρία των ψυχών ημών.
Passons maintenant à un texte patristique sur la fête de la Dormition, composé également par Saint Jean Damascène. Il s'agit de la deuxième des trois homélies de Damascène sur la Dormition, qui, comme les deux autres, est de peu antérieure au milieu du 8e siècle. Elle a été prononcée à Gethsémani, sur les pentes du mont des Oliviers, où, d'après la tradition de l'Église de Jérusalem, le corps de Marie a été enseveli avant son ascension au ciel. C'est devant ce monument, qui était en fait un tombeau vide et passé pour le tombeau de la Vierge, que Damascène s'est adressé aux fidèles de Jérusalem. Jean Damascène est, comme nous l'avons dit, un grand dogmaticien, en particulier défenseur de l'icône, dont le fondement doctrinal est l'incarnation du Christ. Ce point est également la clé de voûte de l'enseignement sur Marie, reconnu solennellement par l'Église en 431 au Concile d'Éphèse comme la Théotokos, celle qui enfanta Dieu. Moine à Jérusalem et chantre de l'incarnation, Damascène est donc tout naturellement aussi un des docteurs de la théologie mariale. Et revenons maintenant au texte de la deuxième homélie sur la Dormition qui, après le préambule, se lance dans un développement sur l'événement fêté en ce jour par l'Église. Quel sens donner à la mort de celle qui donna la vie à la vraie vie? Voici un premier extrait de cette homélie dans la traduction faite par le père Pierre Voulet, paru en 1960 dans le volume 80 de la collection des sources chrétiennes et réimprimé en 1998. Aujourd'hui, la Sainte et l'unique Vierge est amenée au temple hypercosmique et céleste, elle qui a brûlé d'une telle ardeur pour la virginité qu'elle fut transformée en elle comme en un feu très pur. Toute Vierge perd sa virginité en enfantant, mais celle-ci, Vierge avant l'enfantement, demeure Vierge en enfantant et après la naissance. Aujourd'hui, l'arche sacrée et vivante du Dieu vivant, celle qui a porté dans son sein son auteur, se repose dans le temple du Seigneur, non fait de main d'homme, et David, son ancêtre et l'ancêtre de Dieu, exulte. Et les anges mènent leur cœur avec lui. Les archanges applaudissent, les vertus rendent gloire, les principautés avec lui tressaillent, les dominations jubilent, les puissances se réjouissent, les trônes sont en fête, les chérubins chantent des louanges, les séraphins proclament « Gloire !» car ce n'est point pour eux une faible gloire que de glorifier la mère de la gloire. Aujourd'hui, la colombe toute sacrée, l'âme pure et innocente consacrée par l'Esprit divin, envolée de l'arche, je veux dire de son corps, réceptacle de Dieu et source de vie, a trouvé où reposer ses pieds. Elle est partie pour le monde intelligible et s'est établie sur la terre sans tache de l'héritage d'en haut. Aujourd'hui, l'Éden du nouvel Adam accueille le paradis spirituel où la condamnation est effacée, où l'arbre de vie est planté, où fut recouverte notre nudité. Car nous ne sommes plus nus et sans vêtements, privés de l'éclat de la divine image et dépouillés de la grâce abondante de l'Esprit. Nous ne déplorons plus l'antique nudité en disant « J'ai quitté ma tunique, comment la remettrai-je » Car dans ce paradis, le serpent n'eut pas d'entrée. Lui dont nous avons convoité la divinisation mensongère, ce qui nous a valu de ressembler au bétail sans raison. Le Fils unique de Dieu en personne, qui est Dieu et consubstantiel au Père, de cette Vierge et de cette terre pure, s'est lui-même façonné une nature humaine. Et je suis devenu Dieu, moi qui suis homme. Mortel, je suis immortalisé. J'ai dépouillé les tuniques de peau. J'ai rejeté le manteau de la corruption, je me suis couvert du vêtement de la divinité. Aujourd'hui, la Vierge sans tache, qui n'a pas entretenu d'affection terrestre, mais s'est nourrie des pensées du ciel, n'est pas retournée à la terre. Comme elle est en réalité un ciel vivant, elle est placée dans les tentes célestes. Qui donc, en effet, manquerait à la vérité en l'appelant un ciel? À moins de dire peut-être, avec justesse et intelligence, qu'elle dépasse les cieux même par d'incomparables privilèges. Car celui qui a construit les cieux et qui les contient, l'artisan de toute la création cosmique et hypercosmique, visible et invisible, qui n'est dans aucun lieu, parce qu'il est lui-même le lieu de tous les êtres, puisque le lieu par définition contient ce qui est en lui, s'est fait lui-même en elle petit enfant, sans semence humaine. Il a fait d'elle la spacieuse demeure de sa divinité qui remplit tout, unique et sans limite, tout entier ramassé en elle sans s'amoindrir et demeurant tout entier en dehors, étant à soi-même son lieu infini. Aujourd'hui, le trésor de la vie, l'abîme de la grâce, je ne sais comment m'exprimer de mes lèvres audacieuses et intrépides, entre dans l'ombre d'une mort porteuse de vie. Sans crainte, elle s'en approche, elle qui a engendré son destructeur, si toutefois il est permis d'appeler mort son départ plein de sainteté et de vie. Car celle qui pour tous fut la source de la vraie vie, comment tomberait-elle au pouvoir de la mort? Mais elle obéit à la loi établie par son propre enfant, et comme fille du vieil Adam, elle acquitte la dette paternelle, puisque son fils même, qui est la vie en personne, ne l'a pas reniée. Mais comme mère du Dieu vivant, il est juste qu'elle soit emportée auprès de lui, car si Dieu a dit « de peur que l'homme, le premier créé, n'étende la main, ne cueille de l'arbre de vie, n'en goûte et ne vive pour la durée des temps », comment celle qui a reçu la vie elle-même, sans principe et sans terme, a franchi des limites du commencement et de la fin, ne vivrait-elle pas pour la durée illimitée? Nous voyons donc bien, chers amis, dans cet extrait de la deuxième homélie sur la Dormition de Jean Damascène, que l'auteur insiste sur la réalité de l'incarnation du Christ qui permet à l'homme de devenir Dieu et fait de la mort de Marie le passage à la vie. Je vous propose maintenant à nouveau un texte liturgique sur la Dormition de la Vierge. En voici le texte. Merveille, vraiment, la source de la vie est déposée au tombeau et sa tombe devient l'échelle du ciel. Réjouis-toi, Gethsémani, temple sacré de la Mère de Dieu. Fidèle, écrions-nous avec l'archange Gabriel. Pleine de grâce, réjouis-toi. Le Seigneur est avec toi, qui au monde par toi donne la grâce du salut. Écoutons maintenant ce stichère de la Dormition dans une composition d'Iakovos, grand protopsalte de la Grande Église du Christ, mort vers l'an 1800, composé dans le premier ton. Il est interprété par le chœur byzantin de Grèce sous la direction du regretté Lycourgos Angelopoulos.
Amen.
Revenons maintenant à l'homélie de Jean Damascène. Celui-ci nous livre dans son texte un précieux témoignage, à savoir la tradition sur Marie établie à Jérusalem au 8e siècle, et ce, nous précise l'auteur, depuis une époque ancienne. Il ne me paraît pas ici déplacé de décrire par la parole, autant que cela est possible, d'évoquer et de faire revivre en un tableau les merveilles qui se sont accomplies à propos de cette sainte Mère de Dieu. C'est une tradition dont on peut dire raisonnablement et d'une manière très générale qu'elle nous est transmise de père en fils depuis une époque ancienne. Je me la représente, plus sainte que les saints, sacrée entre toutes, vénérable entre toutes, cette douce demeure de la manne, ou plutôt et plus véritablement sa source, étendue sur un lit de repos dans la divine et renommée cité de David, dans cette Sion illustre et couronnée de gloire, où fut menée à son terme la loi selon la lettre et proclamée le nom de l'Esprit, où le Christ législateur mit fin à la Pâque typique et où le Dieu de l'ancienne et de la nouvelle alliance a transmis la Pâque véritable, où l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde a initié ses disciples au repas mystique et pour eux s'est immolé comme le veau gras et a foulé la grappe de la vraie vigne. Là, le Christ ressuscité des morts se fait voir aux apôtres et amène Thomas, et par lui l'univers, à croire qu'il est Dieu et Seigneur, ayant en lui deux natures, même après sa résurrection, avec deux énergies qui leur correspondent et des volontés libres qui demeurent pour l'éternité. C'est là la métropole des Églises, c'est là le séjour des disciples. Là, l'Esprit très saint est survenu, avec grand bruit, multitude de langues et apparence de feu, et fut répandu sur les apôtres. Là, le héros de la parole de Dieu, qui avait reçu chez lui la Mère de Dieu, subvenait à ses besoins. Cette demeure, qui est la mère des Églises de la terre entière, devint la résidence de la Mère de Dieu après le retour de son Fils d'entre les morts. C'est donc là que la bienheureuse Vierge reposait sur son lit trois fois béni. Mais parvenu à ce point de mon discours, s'il faut dévoiler mes sentiments intimes, dit Jean Damascène, je suis consumé d'une vive ardeur et d'un feu brûlant, saisi d'un frisson avec des larmes de joie, comme si j'embrassais en réalité ce lit bienheureux et aimable, débordant de merveilles, qui reçut la demeure d'où est sortie la vie et qui, à son contact, a participé à sa sainteté. Cette demeure sacrée elle-même, sacro-sainte, digne de Dieu, il me semblait la tenir de mes mains, l'entourer de mes bras. Les yeux, les lèvres, le front, le cou, les joues, appliqués à ses membres, j'ai eu le sentiment de toucher le corps comme s'il était présent, et cependant, avec toute mon attention, je n'ai pu voir de mes yeux ce que je désirais. Comment apercevoir ce qui a été emporté dans les hauteurs vers les parvis célestes? Voilà ce que disait Jean Damascène sur Marie, et avant de revenir à lui, en témoignage de l'incroyable diversité des œuvres artistiques dédiées à la Mère de Dieu, je vous invite maintenant à écouter une composition appartenant à un univers totalement différent des chants byzantins que nous avons entendus jusqu'à présent. C'est une œuvre de Mikhail Hippolytov Ifanov, compositeur russe mort en 1935, qui fut l'élève de Rimsky-Korsakov et s'illustra dans la composition d'opéra, de musique symphonique et de musique de chambre. Cette salutation à la Vierge est chantée par le chœur Legae Artis sous la direction de Boris Abalian. Et voici à présent un dernier passage de la deuxième homélie sur la Dormition de la Mère de Dieu de saint Jean Damascène. L'auteur invite ici ses lecteurs à revisiter le mystère de l'incarnation du Verbe en célébrant la Mère de Dieu. Par elle, dit Damascène, en rappelant de nouveau un point central de notre foi, Dieu s'est fait homme et l'homme est devenu Dieu. Quant à nous, comme celui que nous adorons est Dieu, un Dieu qui n'est pas venu du non-être à l'existence, mais qui est éternel, engendré de l'éternel, qui dépasse toute cause, parole, idée, soit de temps, soit de nature, c'est la Mère de Dieu que nous honorons et vénérons. Nous ne voulons pas dire qu'il tienne d'elle la naissance intemporelle de sa divinité. La génération du Verbe de Dieu est hors du temps et éternelle comme le Père. Mais nous confessons une seconde naissance, par incarnation volontaire, et de celle-ci nous connaissons la cause et nous la proclamons. Il se fait chair, celui qui est éternellement incorporel, à cause de nous et à cause de notre salut, pour sauver le semblable par le semblable. Et s'incarnant, il naît de cette Vierge sacrée sans union humaine, restant lui-même Dieu tout entier et tout entier devenu homme. Pleinement Dieu avec sa chair et pleinement homme avec son infinie divinité. C'est en reconnaissant ainsi cette Vierge comme Mère de Dieu que nous célébrons sa Dormition. Nous ne l'appelons pas une déesse, loin de nous ces fables de l'imposture grecque, puisque nous annonçons aussi sa mort. Mais nous la reconnaissons pour la Mère de Dieu incarnée. Célébrons-la aujourd'hui par des chants sacrés, nous qui avons été enrichis au point d'être le peuple du Christ et de porter ce nom. Honorons-la par des stations nocturnes. Réjouissons-la par la pureté de l'âme et du corps, elle qui réellement est plus pure que tous les êtres sans exception après Dieu. Car le semblable se plaît au semblable. Rendons-lui hommage par notre miséricorde et notre compassion à l'égard des indigents. Si rien ne fait honneur à Dieu comme la miséricorde, qui contestera que sa mère soit honorée par les mêmes sentiments, elle qui a mis à notre disposition cet abîme ineffable, l'amour de Dieu pour nous? Par elle, nos hostilités séculaires avec le Créateur ont pris fin. Par elle, notre réconciliation avec lui fut proclamée. La paix et la grâce nous furent données, les hommes unissent leur cœur à ceux des anges, et nous voilà faits enfants de Dieu, nous qui étions auparavant un objet de mépris. Par elle, nous avons vendangé le raisin qui donne la vie. D'elle, nous avons cueilli le germe de l'incorruptibilité. De tous les biens, elle est devenue pour nous la médiatrice. En elle, Dieu s'est fait homme, et l'homme est devenu Dieu. Quoi de plus paradoxal? Quoi de plus heureux? Troublé par la crainte, je révère en tremblant ce que j'annonce. Avec Mariam la prophétesse, ô jeunes âmes, formons des chœurs de danse avec des tambourins, en mortifiant nos membres terrestres, car tel est le sens mystique du tambourin. Poussons un cri de guerre, élevons la clameur de nos âmes devant l'arche du Seigneur Dieu, et nous verrons tomber les murs de Jéricho, c'est-à-dire les forteresses hostiles des puissances adverses. Avec David, bondissons dans l'esprit, car l'arche du Seigneur aujourd'hui est entrée dans son repos. Avec Gabriel, le chef des anges, écrions-nous. Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Réjouis-toi, inépuisable océan de la joie. Réjouis-toi, seul remède capable de chasser la tristesse. Sois dans la joie, toi, le baume qui apaise la douleur de tous les cœurs. Sois dans la joie, toi, par qui la mort est expulsée, tandis que la vie fait son entrée. Terminons cette émission avec un chant en l'honneur de la Vierge Marie, particulièrement apprécié par les fidèles orthodoxes. Ce sont les vers de Saint Nectaire d'Égine, mis en musique par le hiéromoine Grégoire de Simonospetra. Il est chanté dans une traduction française par les moines atonites de Simonospetra.
Yeah.
C'était la Dormition de la Mère de Dieu. Notre prochaine émission, dimanche 23 août, ce sera la rediffusion de l'émission du 23 février 2014. Je recevais Anne Couder et Olivier Deluy sur Héritage de Byzance, les Balkans. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Chrysostalis. Chargée de réalisation, Sylvie Migaud. Prise de son, Julien Douminc. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Et voici maintenant la messe catholique.